Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Nelly Ben-Simon, Michel Henry, bonjour.
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 Vous êtes respectivement mathématicien et informaticienne. Vous avez travaillé pour l'un à l'université de Besançon, l'IREM de Franche-Comté, et plus précisément, Michel Henry, sur la statistique et les probabilités. Et vous, Nelly Ben-Simon, vous avez travaillé à Orsay, où vous avez dirigé l'IUT d'Orsay, qui comprend trois départements, informatique, chimie, mesure physique. Vous êtes tous deux des membres actifs de l'Union rationaliste. Michel Henry, vous êtes administrateur de l'UR et vous êtes tous les deux membres du bureau de l'Union rationaliste. Si je vous ai invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste, en ce mois de juin 2019, c'est pour évoquer avec vous les réserves qu'en tant que rationaliste et enseignant, vous avez formulées lors d'une contribution au grand débat sur la réforme Blanquer. L'enseignement, l'éducation, la transmission des connaissances, du savoir scientifique et des humanités sont des priorités pour les rationalistes que nous sommes. Et il nous apparaît que la réforme portée par l'actuel ministre de l'Éducation nationale est une réforme, peut-être le terme est trop journalistique ou emphatique, catastrophique pour l'éducation nationale, et que sous couvert d'une réforme de plus, c'est à la fois des économies et des suppressions de postes qui sont recherchées, en s'autorisant d'énormes sauts dans l'inconnu, dans une stratégie dévastatrice où, comme un mauvais général, le ministre assumerait une position casse-cou, ça passe ou ça casse, l'idée étant, nous le pensons, que ça casse pour mieux faire le jeu de la privatisation de l'enseignement, privatisation largement entamée depuis déjà des années et pas seulement par des gouvernements de droite. Je pense aux attaques au statut de professeur portées par exemple par Benoît Hamon. 17 minutes, c'est peu pour parvenir à montrer ces thèses. Je renverrai donc à deux analyses que nous avons produites à l'Union rationaliste, la vôtre, que l'on peut trouver sur le site de l'UR et notamment dans le cahier rationaliste numéro 658 qu'on peut commander sur le site de l'Union rationaliste. Et je pense à l'analyse qu'a produite Roland Pfefferkorn dans le numéro 211 de Raison présente intitulé « École, science, réforme ». Ma première question, donc, porte sur les méthodes utilisées pour faire passer cette réforme Blanquer-Vidal qui, de la maternelle à l'université en passant par le lycée, ne laisse intact aucun secteur de l'éducation. Mais les méthodes semblent toujours identiques. Beaucoup de flou, d'enfumage, de la communication démagogique et consensuelle au départ, 12 élèves par classe en maternelle pour les maternelles où les enfants seraient en difficulté, mieux former les enseignants en maths, lutter contre l'absentéisme des élèves. Autant de propos encourageants et sains, mais en réalité, faire passer au pas de charge et de façon autoritaire, souvent par décret, ce qui a été décidé au ministère. Est-ce bien cela, Michel Henry ?
Oui, tout à fait. Lorsqu'il a pris ses fonctions, Jean-Michel Blanquer avait annoncé qu'il n'y aurait pas de loi portant son nom. Ben, la loi s'appelle École de la confiance. Pour nous, on l'a dit, c'est l'école de la méfiance, voire de la défiance. Pour mettre en place cette loi, il a adopté une procédure législative accélérée. Adoption par l'Assemblée nationale en première lecture, puis par le Sénat après quelques amendements anodins, notamment l'abandon de la fusion des CE2 avec les 6e, bon, mais pas de retour devant l'Assemblée nationale. Le ministre a décidé qu'un accord en commission suffirait pour adopter la loi et donc pas de deuxième lecture. Et on s'attend à ce qu'il la promulgue avant la fin du mois de juin de cette année. On est donc très pressé. ces procédures accélérées aussi pour la refondation, et je mets des guillemets, et l'écriture de tous les programmes, de la maternelle jusqu'au lycée, car le temps presse pour leur mise en œuvre à la rentrée 2019. 2 mois de travail, un travail impossible, avec un petit groupe d'experts, entre guillemets aussi, inconnus, amis sans doute du ministre, sans véritable consultation des spécialistes que sont les enseignants eux-mêmes et l'inspection générale, qui est hors circuit. Les parents sont exclus, évidemment, les jeunes aussi. Quant à la formation des enseignants, la suppression des ESP, des écoles supérieures de professorat et de l'éducation, pour les remplacer par des INSPE, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, est placé sous l'autorité des recteurs. Les directeurs sont nommés par le ministre et ces INSP échappent aux formations universitaires et conçues principalement comme formation en stage en responsabilité, sans formation, en utilisant les stagiaires comme des bouche-trous. L'enfumage à l'école maternelle obligatoire à partir de 3 ans. 97%, plus que 97% des enfants de ces âges-là sont déjà scolarisés.
Bien sûr.
Et donc, là n'est pas la question. La question, c'est que de ce fait, les municipalités vont être obligées d'ouvrir des maternelles privées et les subventionner. Donc, c'est une dépense supplémentaire non négligeable qui est imposée aux municipalités. Et enfin, dans un article 17 et les articles 17 et 18, il est prévu de légiférer par ordonnance. C'est écrit dans la loi.
Le moins qu'on puisse dire, donc, c'est que la concertation n'est pas dans les préoccupations de ce ministre et de ses conseillers et que nous sommes confrontés à une mascarade de concertation court-circuitant quasi systématiquement, et peut-être cela fait aussi partie de la méthode, les corps intermédiaires, vous avez parlé de l'inspection générale, les syndicats, les associations de parents d'élèves qui tous restent au fond hébétés face à ces méthodes.
Oui, aucune place n'a été laissée à un quelconque débat. Les informations sont livrées au compte-gouttes, par vagues successives. Une loi morcelée au départ, dont on ne voyait pas les tenants et aboutissants. Des rencontres mascarades, comme vous l'avez dit, avec les corps intermédiaires. Ainsi, l'inspection générale, par exemple, n'a pris connaissance des futurs programmes qu'après coup. Les enseignants l'ont connu par la presse syndicale au milieu du mois de juin. Ils viennent d'en prendre connaissance à la mi-juin. Ils sont
au moment même où ils sont tous pressés par les tâches.
Voilà, ils sont occupés par le bac et par la préparation de la fin de l'année. On sait qu'elle est très dense en général. Et cette mise en place à la rentrée 2019 suppose des nouveaux cours, complètement différents, suppose de définir des progressions, des organisations pluridisciplinaires, des concertations entre collègues au sein des établissements, tout cela qui est impossible à réaliser. De qui se moque-t-on ?
Oui, très clairement. Alors, nous le disions en commençant, pour voir plus clair dans cet enfumage, peut-être faut-il mettre en rapport ce que certains ont appelé la réformite blanquerienne, cette volonté de réformer à pas charger par coup de force, avec les réformes précédentes qu'elle poursuit en les amplifiant.
Oui, en effet, dans l'article que vous avez cité, que nous avons proposé pour le grand débat, entre parenthèses, on n'a eu aucun retour
bien sûr.
Cet article qui pourtant faisait des révélations et citait ses sources, etc.
Je crois que nous ne sommes pas les seuls à ne pas avoir eu de réponse.
Bon. Et on est effectivement entré dans le cycle infernal des réformes qui réforment des réformes. Dans cet article que nous avons rédigé avec Mme Mencinon, nous avons rédigé cette contribution pour montrer comment cette réforme Blanquer s'inscrit dans une certaine continuité de réformes intérieures tout en accentuant fortement leur adaptation au libéralisme économique. Nous avons eu la loi Peillon du 9 juillet 2013, l'école du socle des connaissances, des compétences et de la culture, faisant en fait passer les connaissances à l'arrière-plan, selon les directives données par l'OCDE déjà en 1998. L'école des compétences pour effacer certaines connaissances, ce qui implique à terme la suppression des programmes et des diplômes nationaux, c'est dans le texte de l'OCDE. Ainsi, les contenus disciplinaires disparaissent et l'école publique est mise en concurrence avec l'école privée. Nous allons assister à un chambardement sans précédent des cursus scolaires, avec la disparition des filières LESS et des filières technologiques et professionnelles. Dans les lycées professionnels, 13% d'heures en moins, une année de perdu, une multiplication des stages patronaux, en fait une économie de moyens d'enseignants, 13 000 suppressions de postes sont d'ores et déjà programmées.
Mmh. Derrière cette réforme, il y a donc des enjeux politiques, idéologiques, en plus de cette volonté dont vous venez parler, partagée par de très nombreux gouvernements successifs, de faire des économies. Alors, ces enjeux, est-ce de mettre très efficacement l'éducation publique sur le marché de la privatisation, dans une logique généreuse pour les institutions privées, qui tirent des bénéfices de la désorganisation de l'école publique et des craintes nées chez les élèves, chez les jeunes étudiants et chez les parents d'élèves. Crainte que cette désorganisation génère, je pense par exemple à Parcoursup, qui fait le lit des prépas privés et des facs privées.
Oui,
Nelly Ben-Simon.
Vous nous interrogez, qui a-t-il derrière les réformes ? Alors, en premier, faire encore plus d'économies. C'est vrai, le service public de l'éducation coûte cher à la collectivité. Il faut qu'il soit davantage rentable, nous dit le gouvernement. Je citerai deux constats faits par le ministère. L'échec en première année d'université est un scandale, c'est un propos du ministre. Et par ailleurs, les résultats des évaluations PISA et autres classent les jeunes Français loin dans la liste des pays évalués. Donc ce qui est en cause, c'est le système éducatif public, qui nécessite une réforme dont les fruits ne seront sensibles qu'à long terme, si fruits il y a. Ce qui sème, effectivement, ce qui génère une forte inquiétude des familles, qui, elles, gèrent le court terme, d'où se tournent vers l'école privée. À tout niveau, de la maternelle au supérieur, c'est un bon refuge. Conséquence immédiatement positive pour le gouvernement, moins de ressources humaines et financières à injecter dans le système public. Donc, faire encore plus d'économies, je reprends des propos du ministre Blanquer. L'idée, c'est qu'en préparant le bac, il s'adresse aux élèves du lycée, vous développez les compétences qui vont vous faire réussir dans le supérieur. Aujourd'hui, le scandale, c'est l'échec élevé dans le supérieur. Que doit-on comprendre de ces propos ? Le cursus scolaire en lycée a comme démarche l'acquisition de compétences, de savoir-faire qui ne mobilise pas nécessairement des connaissances disciplinaires. Or, et c'est notre constat en tant qu'enseignant-chercheur, c'est que dans ces connaissances, sans ces connaissances, il n'est pas possible d'aller plus loin dans la construction de savoir et d'esprit d'analyse et d'élargissement des compétences. Le vrai scandale pour nous, c'est l'appauvrissement des moyens humains, technologiques, matériels, immobiliers, pour accueillir et former les étudiants dans le supérieur. Alors je prendrai deux exemples de réduction des coûts possibles grâce à la réforme en discussion. La réforme des lycées et l'offre des spécialités. Ce sera une offre régionale large, certes, mais localement réduite, et d'autant plus réduite que les lycées publics sont éloignés les uns des autres. Enfin, c'est une offre qui est guidée par le contexte économique régional. Donc, que vont faire les familles ? Regardez ce que l'offre du privé permet. S'il faut choisir entre l'éloignement de l'enfant, un internat, une solution de logement loin et le privé qui est à la porte de chez eux. D'où l'égalité des chances remise en cause, fragilisée au niveau de l'ensemble des régions, chaque région jouant en fait une carte de formation. Et de ce fait, bien évidemment, c'est la valeur nationale du baccalauréat et des formations qui y mènent, qui est remise en cause. Le baccalauréat étant fragilisé, c'est la mobilité pour un premier emploi qui va s'avérer difficile. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est la réforme du baccalauréat professionnel.
Volet très important.
Bien sûr, puisqu'il touche quand même plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de jeunes. Michel Henry en a parlé, une année de moins, une diminution drastique des enseignements, mais des enseignements généraux. Donc, une économie évidente, redistribution d'enseignants vers d'autres filières du secondaire ou, autre possibilité, suppression de postes. Mais que dire de la formation ? L'élève reçoit une formation, une qualification pro, adaptée à un moment à une situation d'apprentissage dans laquelle il ou elle se trouve, mais qui le prive d'apprentissage périphérique complémentaire qui lui permettrait plus tard d'embrayer vers des formations de niveau supérieur. L'effet de ces réformes successives, vous l'avez dit, sur le système scolaire qui n'améliore pas la réussite des élèves des universités, qui les met en échec. Cette remise en cause de tous les acteurs du public donne un sentiment d'inquiétude, de perte de confiance envers l'éducation publique, de doute au sein des familles qui se détournent de l'enseignement public pour assurer à leurs enfants une formation post-bac et même jusqu'au bac privé.
Nelly Ben-Simon, Michel Henry, c'est sur ces mots que nous allons clore cette émission, tout en encourageant tous les collègues qui, en ce mois de juin, tentent de lutter pour une vraie école de la confiance contre cette réforme de l'école que nous qualifierions de la défiance. Je renvoie donc au numéro 211 de Raison Présente et au numéro 658 des Cahiers Rationalistes. Je remercie Manuel Couturier et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission. Et je vous dis au mois prochain.